J'imagine que la plupart des gens sur la Terre se diraient croyants d'une façon ou l'autre, soit d'une religion reconnue, établie, organisée. Mais la plupart des personnes que je connaisse, par exemple, qui ne font pas partie d'une religion organisée, croient quand même à l'existence de Dieu, au sens au moins d'un créateur, d'une intelligence suprême qui est derrière tous les phénomènes de l'univers, que l'univers ne se fait pas de lui-même. Et j'imagine que cet état de choses existe depuis au moins plusieurs millénaires, c'est-à-dire que si on remonte dans l'histoire, qu'à chaque époque, à chaque génération, la plupart des gens sur la Terre étaient croyants, se disaient croyants. Maintenant, vis-à-vis ce phénomène-là, Abdu'l-Bahá, le fils de Baha'u'llah, a dit une chose très intéressante et un peu choquant au départ. Il a dit, la plupart des gens se disent croyants, mais en réalité, le nombre des vrais croyants en Dieu est une poignée, c'est minime. Et ça a toujours été minime. Et puis, alors, devant cette affirmation, on demande, bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais il continue, il s'explique. Il dit, la plupart des gens qui se disent croyants, en réalité, ils croient dans leur idée de Dieu, au lieu de croire en Dieu. Ok? Donc, on croit qu'on croit en Dieu. Ok? On a l'impression qu'on croit en Dieu. Mais, selon Abdu'l-Bahá, en réalité, l'objet de notre croyance, c'est une idée que nous avons dans notre tête de Dieu, donc une idée que nous avons créée nous-mêmes, que nous appelons Dieu. Et c'est ça que nous adorons, cette image qu'on s'est fait de Dieu. Peut-être pas de façon consciente, peut-être pas de façon explicite, mais c'est cela. Tout ça pour dire que la façon que nous pensons à Dieu a quand même une certaine importance. Parce que, rappelons la chose suivante, le fonctionnement de l'être humain, la façon de se comporter de l'être humain, dépend surtout de notre perception de la réalité, non de la réalité. C'est-à-dire, si j'ai la perception à cause de mon enfance ou n'importe quoi, que je ne vaux rien, ok, prenons ça pour acquis, c'est un exemple, ok, si je me perçois de cette façon-là, je vais agir comme si je ne vaux rien, ok. Nous savons très bien que la plupart des prostituées et des voleurs et des assassins et tout ça, ça a été vérifié par les psychologues et tout ça, la plupart des malfaiteurs ou des gens qui ont un comportement antisocial ont une image de soi extrêmement négative, c'est-à-dire ils ne font que d'agir comme ils se perçoivent, n'est-ce pas? Donc, on a beau à dire, mais chacune de ces personnes a des talents, des capacités et tout, c'est-à-dire la réalité objective ne change pas la chose tant que la perception de la personne ne change pas. Alors donc, je veux nous inviter à réfléchir pendant juste quelques minutes sur notre perception de la réalité d'une façon générale et de Dieu en particulier. Pour mettre ça dans un contexte historique un petit peu, nous pouvons dire la chose suivante. Tous ceux qui ont pensé à propos de Dieu sont arrivés à donner au moins trois attributs à Dieu. Tout le monde est d'accord pour dire que Dieu est tout puissant, parce que, enfin, petit raisonnement si vous voulez, si Dieu n'est pas tout puissant, ça veut dire quoi? Qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui, et celui-là c'est Dieu. Alors, donc en quelque sorte, le fait d'être Dieu, d'être le créateur, veut dire qu'il est tout puissant, parce que tout vient de lui. Un deuxième attribut de Dieu sur lequel tout le monde était d'accord, c'était que Dieu est infiniment intelligent. Il est tout savant, il est omniscient, il sait tout. Il sait tout, il n'y a rien qui échappe à l'intelligence de Dieu. Et le troisième attribut que j'ai dit, que tout le monde a convenu, a attribué à Dieu, c'est la bonté, que Dieu est tout bon. Maintenant, reste à savoir ce qu'on peut vouloir dire par ces choses-là, mais si vous lisez les philosophes, Platon, Socrate, Aristote, pas juste les prophètes, mais tous les grands philosophes, tout le monde est arrivé à dire que nécessairement Dieu est tout puissant, tout savant et infiniment bon. Cependant, différentes philosophies ont donné plus d'importance à l'un ou l'autre de ces attributs. Par exemple, pour Platon, que je mentionne toujours parce que c'est un peu mon idole philosophique, si vous voulez. Mais pour Platon, c'était l'intelligence de Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde le monde comme il faut, dit Platon, on voit l'ordre qui est, que c'est un ordre extrêmement, un ordre fin qui est derrière tout, que tout est structuré de façon fine, et que ça, c'est le reflet de l'intelligence de Dieu, l'esprit de Dieu. Donc, pour Platon, dans la philosophie de Platon, l'intelligence ou le savoir de Dieu primait sur les autres attributs. Cependant, ce n'est pas qu'il négligeait les autres. Par exemple, son nom pour Dieu, c'était la forme du bon. Donc, la plus haute forme de raisonnement pour Platon, c'était la forme du bon. Donc, pour lui, ce qui était suprêmement intelligent était suprêmement bon. Pour la foi chrétienne, par exemple, pour prendre un cas que nous connaissons tous, pour la foi chrétienne, c'est évidemment l'amour et donc la bonté, si vous voulez, de Dieu qui est mise en valeur, n'est-ce pas? Dieu est amour. Dieu a sacrifié son Fils pour nous, il nous aime, etc. Il nous pardonne, même si on a désobéi à Dieu, il nous pardonne, etc., etc. Donc la compassion, la bonté, l'amour de Dieu était le thème, si vous voulez, de la foi chrétienne. Et aussi pour les néoplatoniciens, c'est Plotine qui a parlé le premier du Saint-Esprit. Enfin, l'évangile de Jean est basé sur la philosophie néoplatonicienne. Et c'est Plotine qui avait dit que le premier attribut que Dieu engendre, c'est l'intelligence universelle. Donc, il appelait ça l'intelligence universelle, que l'essence de Dieu engendre l'intelligence universelle, et cette intelligence fait tout. Et cette intelligence qui, dans l'évangile de Jean, s'appelle le verbe de Dieu, n'est-ce pas? Le verbe étant une articulation de la pensée, donc de l'intelligence. Et on dit que Jésus est le verbe incarné, donc c'est le verbe fait chair. Donc, même si les chrétiens donnent plus d'importance à l'amour de Dieu, cette notion de que Dieu est intelligent, que Dieu est infiniment savant, est là déjà dans cette notion du verbe et toute l'articulation de l'évangile de Jean, comme j'ai dit, est basée sur la philosophie néoplatonicienne. Donc c'est les chrétiens qui ont donné le nom Esprit Saint à ce que Plotine appelait l'intellect universel. Donc la première articulation de cette notion, c'était l'intellect universel, ou l'intelligence universelle peut-être, et c'est ce que les chrétiens ont baptisé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au lieu de prendre le terme de Plotine, intellect universel, ils ont dit Saint-Esprit. Donc, qui encore une fois donne plus d'ampleur, ce n'est pas seulement l'intelligence, mais aussi l'amour, l'esprit, ce qui donne la vie, ce qui donne le souffle, etc. Maintenant, si je donne toutes ces perspectives, c'est parce que, de façon très intéressante et très marquante, la foi Baha'i et Abdu'l Baha, que j'ai cité un tout à l'heure, dit que le premier attribut de Dieu, c'est la volonté. Que la volonté, la toute-puissance de Dieu, est l'attribut le plus dominant de Dieu, si vous voulez, dans une certaine mesure, par rapport à la création. Et donc, Abdu'l Baha, par exemple, quand il a dit que la première émanation de Dieu, que les anciens appelaient l'intelligence universelle ou l'Esprit Saint, nous, les Baha'is, nous l'appelons la volonté première. Donc, Abdu'l Baha, et dans toute la littérature Baha'i, Abdu'l Baha, il utilise le mot Saint-Esprit, il utilise le mot intelligence universelle, parfois. Mais il dit textuellement, je le cite, il dit, ce que les anciens appelaient l'intelligence universelle ou l'Esprit Saint, nous, les Baha'is, nous appelons ça la volonté première. Donc, la première chose qui naît de Dieu, c'est l'Esprit Saint, si vous voulez, mais l'essence de l'Esprit Saint, c'est la volonté. C'est la volonté première. Et quand le Bab, il a donné les sept étapes de création, depuis Dieu jusqu'aux choses physiques, et la première étape, c'est l'intention de créer. Maintenant, on pourrait dire, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, mais voilà, la première chose, c'est que Dieu doit concevoir ce qu'il veut créer. C'est ce que disaient certains philosophes, comme Leibniz, par exemple, que, encore une fois, pour Leibniz, c'est l'intelligence de Dieu qui est la chose la plus importante, parce qu'il faut que Dieu conçoit le monde possible avant qu'il ait la volonté de le créer. Donc, c'est pour Leibniz, c'est l'intelligence de Dieu qui prime sur la volonté. Et même, il s'en est pris à Spinoza et Descartes, parce que Descartes avait dit, comme, curieusement, comme la foi Baha'i dit maintenant, que la volonté de Dieu prime sur toute autre chose. Descartes a dit, ce qui est bon, c'est ce que Dieu choisit. Dieu est absolument libre de choisir, il n'a pas de critères, il n'a pas de contraintes sur ce que Dieu fait. Et Leibniz a dit justement que s'il a des contraintes, Dieu ne peut pas faire une mauvaise chose, il ne peut pas faire une chose stupide, n'est-ce pas? Et Dieu est une contrainte à utiliser sa volonté d'une certaine manière. Tandis que Descartes, comme Abdu'l Baha, dit non, ce qui est primaire, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous lire quelques passages des écrits Baha'i où cette notion est affirmée. Je les ai réunis ensemble pour vous donner un peu le sens de la chose. Ça ferait. Béni également l'homme qui professe la croyance en Dieu et en ses signes, donc le monde qu'il a créé, et qui reconnaît qu'à lui, il ne sera pas demandé compte de ses actes. C'est par une telle reconnaissance que toute bonne action est rendue agréable à Dieu. Quiconque n'a pas reconnu cette sublime et fondamentale vérité et n'est pas parvenu à ce stade très élevé, c'est-à-dire la reconnaissance que nul ne demandera compte de ses actes, les vents du doute l'agiteront et les propos des infidèles jetteront le trouble dans son âme. Celui qui a reconnu ce principe recevra le don de la fidélité le plus parfaite. Donc, dans ce premier texte, nous disons, parce que vous aurez pu dire il y a cinq minutes, mais bon, c'est bon, la métaphysique, la philosophie, tout ça, Descartes, Platon, mais à quoi ça rime vraiment de la vie quotidienne? Et voilà, Baha'u'llah dit que la reconnaissance que la primauté de la volonté de Dieu est la clé au bonheur. Je vais le relire donc, mais j'ai d'autres textes. Béni également l'homme qui professe la croyance en Dieu et en ses signes et qui reconnaît que à lui il ne sera pas demandé compte de ses actes. C'est par une telle reconnaissance que toute bonne action est rendue agréable à Dieu. Quiconque n'a pas reconnu cette sublime et fondamentale vérité et n'est pas parvenu à ce stade très élevé, les vents du doute l'agiteront et les propos des infidèles jetteront le trouble dans son âme. Celui qui a reconnu ce principe recevra le don de la fidélité la plus parfaite. Donc la paix dans l'âme, si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, vous commencez à voir que ce n'est pas simplement un discours philosophique abstrait, mais une chose qui a une influence importante. Dans un autre passage, il dit, demandez ce que vous voulez à Dieu. Il peut tout ce qu'il veut. Rien, ni du passé, ni de l'avenir, ne saurait frustrer sa volonté. Ok. L'esprit qui donne la vie au cœur humain est la connaissance de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la connaissance de Dieu? Et son plus bel ornement est la connaissance de cette vérité qu'il fait ce qu'il veut et qu'il ordonne ce qui bon lui semble. Donc la première connaissance, la connaissance la plus fondamentale que nous pouvons avoir de Dieu, c'est de savoir qu'il fait ce qu'il veut. Il n'a aucune contrainte sur la volonté de Dieu. Et j'avais un autre qui semble se glisser. Est-ce que c'est perdu? Ah oui, c'est ici. Dit, il ordonne ce que bon lui semble par la vertu de sa souveraineté. Il ne dit pas en vertu de sa bonté ou de son intelligence, en vertu de sa souveraineté. Et d'un seul commandement, il fait tout ce qu'il veut, et il ne lui sera pas demandé compte de ce qu'il lui aura pu ordonner. Il est en vérité l'irréductible, le tout-puissant, le très sage. Alors, mais je veux relire la dernière, parce que c'est peut-être le plus fort. L'esprit qui donne la vie au cœur humain. C'est ce que nous voulons, la vie dans le cœur, la vie spirituelle. Et la connaissance de Dieu est son plus bel ornement. Et la connaissance de cette vérité qu'il fait ce qu'il veut et qu'il ordonne ce qui bon lui semble. Alors, à prime abord, ça c'est effrayant, n'est-ce pas? C'est effrayant. Parce que si Dieu peut faire ce qu'il veut, il peut nous faire souffrir infiniment. Il peut faire n'importe quoi et on ne peut rien faire. Rien ne peut frustrer sa volonté. Donc, cette primauté de la volonté de Dieu nous fait peur. Pourquoi? Parce que la seule image de pouvoir que nous avons dans l'humain, c'est le pouvoir militaire et politique, le pouvoir physique, et ce pouvoir est toujours abusé. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous prenons pour acquis que plus qu'une personne a du pouvoir sur nous, n'est-ce pas, notre patron au travail, le président, un militaire, enfin, etc., plus qu'un groupe ou une personne a du pouvoir, plus qu'il y a risque d'abus de ce pouvoir. D'ailleurs, nous savons très bien que les humains sont parfaits, sont imparfaits, et que même avec la meilleure de volonté, on peut abuser du pouvoir. Et nous savons encore que cette meilleure de volonté n'est pas toujours là, que les gens ont des intérêts égoïstes, et donc qu'ils se servent du pouvoir pour leur propre fin, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, penser à l'évolution de la société les derniers 100 ou 200 ans, c'est vers la démocratie, c'est vers la décentralisation du pouvoir. C'est ça que nous souhaitons, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on regarde le début du 19e siècle, à peu près tous les peuples du monde étaient sujets à des rois absolus, n'est-ce pas? Napoléon III, le tsar de Russie et tout ça. Et pendant 1000 ans ou 2000 ans avant cela, c'était toujours le cas. Donc, notre histoire, c'est l'histoire d'être soumis à un pouvoir politique plus ou moins bon, plus ou moins agréable, mais c'était considéré comme nécessaire pour l'ordre de la société, n'est-ce pas? Le plus grand crime, c'était toujours la trahison, c'est-à-dire d'outrer le pouvoir du roi. Parce que, évidemment, les gens se connaissaient, ils disaient, ben voilà, évidemment, mieux vaut un roi, même un dictateur, tout ce que vous voulez, que d'être soumis à l'anarchie de sauf qui peut, n'est-ce pas? Et Baha'u'llah reconnaît cette vérité. Baha'u'llah dit que le pire état de société est l'anarchie. Il dit parce que l'anarchie est même pire qu'un roi injuste. Parce qu'il a des limites de ce qu'une seule personne peut faire. Mais il dit, l'anarchie, personne ne profite. Personne ne profite, c'est sauf qui peut, c'est finalement les plus forts qui mangent les plus faibles, et puis c'est les encore plus forts qui mangent les plus forts, etc. Et finalement, il n'y a rien, c'est la loi de la jungle. Donc, nous assistons depuis un certain temps à l'évolution de la société vers un affaiblissement de ce pouvoir centralisant. Mais quand même, comme j'ai dit, dans le meilleur des cas, l'image que nous avons du pouvoir, c'est quand même l'abus du pouvoir. Et donc nous avons peur, nous essayons de nous soustraire du pouvoir. C'est le réflexe naturel. Quand nous ressentons qu'on est manipulé par le pouvoir, on essaie à se soustraire de ce pouvoir, n'est-ce pas? C'est tout le jeu entre les parents et les enfants, n'est-ce pas? Quand les enfants se sentent manipulés, ils ont toutes sortes de stratégies pour saboter le pouvoir des parents. C'est leur stratégie de survie. C'est leur survie, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont absolument vulnérables. Ils ne peuvent pas confronter carrément le pouvoir des parents et penser dompter les parents. Ce n'est pas possible. Leur vie est entre les mains des parents. Donc, ils ont toutes sortes de stratégies pour manipuler, pour détourner, pour se mettre à l'abri du pouvoir des parents. La même chose, mais j'ai déjà dit ça, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais entre les hommes et les femmes, n'est-ce pas? Les hommes ont dominé les femmes pendant des millénaires, et les femmes ont réagi de la seule façon possible. Les femmes ont trouvé toutes sortes de façons de manipuler, de détourner pour se soustraire du pouvoir abusif des hommes, n'est-ce pas? Et même si le mari ou si l'homme en question n'est pas abusif, nous souffrons tous du climat d'abus qui existe dans la société. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de cette histoire d'abus, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire. Maintenant, où est-ce que je veux en venir avec cela? C'est-à-dire que Baha'u'llah nous dit que Dieu nous aime. Et que Dieu n'a pas de besoin. L'amour humain est toujours entaché de besoins, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'amour de la mère pour l'enfant, la mère fait beaucoup de sacrifices pour l'enfant. Mais si, en fin de compte, l'enfant ne montre jamais aucune gratitude à l'égard de sa mère, c'est dur, n'est-ce pas? La mère va ressentir ça à un moment donné. Elle peut même se tourner contre l'enfant parce qu'elle dit, voilà, tous les sacrifices que je fais pendant toutes les années, Tu ne sais pas, chaque soir, quand je me couchais, je t'écoutais pour voir si tu étais bien, etc. J'ai veillé sur toi et tu ne montres aucune gratitude, etc. Donc, même l'amour le plus pur que nous connaissons comme être humain est entaché d'égoïsme, n'est-ce pas? D'un certain égoïsme, d'un certain intérêt de soi. Il n'y a aucun amour humain qui soit entièrement libre de l'intérêt de soi. Cependant, dit Baha'u'llah, Dieu est entièrement libre de l'intérêt propre. Dieu n'a aucun intérêt propre. Il n'a rien que nous avons dont Dieu a besoin. Il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a pas besoin de notre amour.
Il n'y a pas d'agenda.
Il n'a pas d'agenda, il n'a pas d'agenda. Donc, tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bienfait. Donc, d'abord, il avait la volonté de Dieu de créer. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la connaissance. Et Abdu'l-Baha'u'llah nous dit, et Baha'u'llah nous dit que dans les paroles cachées, que c'est par la connaissance de son amour pour nous qu'il nous a créés. Donc il nous a créés par amour, mais c'est par connaissance de son amour. C'est-à-dire, il avait l'intention de créer, il connaît ce qu'il veut créer, et il connaît le fait qu'il aime ce qu'il va créer. Et à ce moment-là, il passe à l'acte de création. Et quel est cet acte de création? C'est la mise en ordre. Donc, pour répondre à l'interrogation du tout départ, la réalité est rationnelle dans le sens précis que l'ordre que Dieu a choisi d'établir, il n'était pas obligé de l'établir, okay? Mais que l'ordre que Dieu a choisi d'établir est basé sur une loi de cause à effet. Et que cette loi est universelle, ce qui veut dire que le monde est régulier. Nous pouvons compter dessus. C'est-à-dire, chaque fois que nous chauffons l'eau à 100 degrés, il va bouillir. Okay? Parce qu'il était possible qu'on habite un monde où une fois ça bouillit et la prochaine fois ça se gèle, n'est-ce pas? Si Dieu peut faire ce qu'il veut, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire un monde où en chauffant ça gèle, n'est-ce pas? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est le gel? C'est des cristaux. Et il y a d'ailleurs des phénomènes où on peut, en chauffant, on peut créer des cristaux, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas obligé ou prenant une autre chose. C'est une loi que des substances se contractent en refroidissant. Cependant, l'eau se fait une exception, parce que le point de plus grande densité de l'eau, c'est à 4 degrés Celsius. Et puis, c'est à 4 degrés Celsius. Et à partir du 4 degrés jusqu'à 0 degrés, l'eau s'expansionne. Ce qui fait que la glace est moins dense que l'eau. Donc l'eau froide, l'eau suffisamment froide, est plus dense que la glace. Ce qui veut dire que la glace flotte. Ce qui veut dire que la vie est possible. Vous changez juste ce fait. Vous avez le même monde, mais vous changez ce fait-là, que la glace ne flotte pas, eh bien, vous n'aurez pas de vie sur la Terre. Parce que dans une génération, dans une saison, n'est-ce pas? Les glaces qui se forment au pôle, ça tomberait au fond, sur les lacs, ça tomberait au fond, ça deviendrait solide, toute la vie aquatique serait morte, et ensuite toute la vie sur la Terre, n'est-ce pas? Donc juste ce fait, cette loi que universellement, partout, l'eau se dilate en refroidissant, en gelant, est une expression de l'amour de Dieu pour nous. Donc, la réalité est rationnelle, pas parce que Dieu était contraint à faire une réalité rationnelle. Parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui sont tombés dans ce piège-là. Ils disent que je n'avais pas le choix, etc. Mais ce n'est pas vrai. Mais Dieu par sa volonté, parce qu'il nous aime, parce qu'il n'a pas d'intérêt propre, parce qu'il fait tout pour notre bienfait, parce qu'il n'a pas d'agenda, comme dit Ben, à ce moment-là, il a fait un monde ordonné par la loi de cause à effet, et ces lois de cause à effet sont universelles dans le sens que ça se réplique chaque fois, que ce n'est pas aléatoire, ce qui fait que nous vivons dans un monde ordonné. Pensez juste à la chose suivante aussi, supposons que le monde était simplement chaotique, qu'un jour on a la gravité, le lendemain on n'a pas la gravité, les choses flottent, le lendemain les choses montent vers le haut, etc. Mais on serait tous fous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on serait dans un monde qu'on a... Alors, proprement parlant, ce n'est pas la réalité qui est rationnelle, mais c'est nous qui sommes rationnels. Si nous choisissons de l'être. C'est-à-dire, la rationalité n'est pas une propriété du monde, mais de nous. La rationalité est une façon de gérer la pensée. C'est une façon de gérer la pensée. La rationalité est une façon de gérer la pensée. Et c'est la façon qui va avec la loi de cause à effet. Parce que quand on raisonne, on dit, mais voilà, si je fais telle ou telle chose, quelles seraient les conséquences de ça? C'est-à-dire, la loi de cause à effet obtient qu'il y a des conséquences objectives des actions qu'on pose. Parce que l'homme est un rêveur. Alors, si on pourrait construire le monde pour nous, n'est-ce pas? Chacun aurait un autre monde où on a des choses qu'on veut, etc. Pour toi, ça ne pleurait pas, le jour que tu ne voulais pas la pluie. Pour moi, ça, il y aura de la pluie le jour que je voulais la pluie, etc. etc. C'est pas possible. Donc, le monde est rationnel dans le sens plus précis qu'il est régi par des lois de cause à effet, n'est-ce pas? Et Dieu nous a dotés d'un esprit capable de rationalité, c'est-à-dire que nous sommes capables de gérer notre pensée de façon à comprendre ces lois de cause à effet. Alors, tout ça, c'est donc une expression de la volonté de Dieu. Cette volonté primaire de Dieu de se faire connaître de nous. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui.